Toujours sur les ondes de Radio Albigès, Paz vous propose une émission autour de la Palestine avec plusieurs intervenants et autour du livre de Dominique et Yves Perrault. Une émission enregistrée mi-janvier 2019. Bonne écoute.
Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, ici Paz, de retour sur les ondes. C'est la première émission pour l'année 2019, alors je vais commencer par vraiment du fond du cœur, et je vous assure que c'est pas, je réponds pas à une doctrine, mais du fond du cœur, j'ai envie de souhaiter à tout le monde beaucoup de joie, d'amour et de paix pour cette année. Voilà, c'est pas gagné, mais il faut toujours y croire. Et je suis donc très heureuse d'être sur les ondes et surtout d'accueillir des auteurs. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de parler de témoins, puisque c'est un couple qui s'est rendu en Palestine et qui a exprimé le besoin de mettre sur le papier les témoignages qu'ils ont recueillis, des photos qu'ils ont prises, mais je vais les laisser se présenter. Donc je suis aujourd'hui avec Yves et Dominique. Bonjour à vous, bienvenue. On va commencer par Dominique peut-être.
Bonjour, je suis pas une militante autour de la Palestine, mais quelqu'un d'intéressé par le sort des Palestiniens et le sort de tous les gens qui souffrent de près ou de loin. Voilà.
Alors à vous, Yves.
Oui, bonjour, merci de nous accueillir déjà. Alors dire déjà qu'effectivement, je dirais que l'origine un peu de notre voyage, c'est aussi le fait qu'on est allé en voyage dans des pays d'Amérique du Sud et qu'on s'est dit qu'on ne retournera jamais en tant que simple touriste dans des pays avec les effets pervers du tourisme. Donc quand ce voyage s'est présenté par des amis, on est à Attaque et d'aller en Palestine, c'était un peu une évidence d'aller voir là-bas ce qui s'y passait, puisqu'on n'en avait qu'une vision, je dirais, une lecture politique livresque, voilà. Donc on est parti avec le CCFD qui était pour le moment, il nous proposait quelque chose qui nous était recommandé par nos amis, tout simplement. Donc on est parti et ce livre avait pour but de répondre à la demande permanente des Palestiniens qui était témoigner. Les gouvernements ne font rien, il n'y a que l'opinion publique qui pourra faire et avancer les choses. Donc dites, racontez ce qu'on vous dit. Racontez ce que vous avez vu. C'est aussi bête que ça. C'est pour ça que ce livre, ce n'est pas notre voyage, qui n'a aucun intérêt, mais c'est la parole des Palestiniens.
Alors, ce livre, vous l'avez intitulé ?
Alors, on l'a intitulé « Palestine, l'effacement ». Et « Tout existe, is tout résiste », avec l'accent, parce que c'est exactement ça. On est face à un espèce de génocide, un génocide lent. Et exister là-bas, c'est vraiment un acte de résistance au niveau de tous les jours. Les phrases de ce passe-même de commentaires.
Mmh. Alors avant de lire peut-être l'introduction, je vais inviter les autres personnes qui sont autour de la table aujourd'hui à se présenter. Alors on commence par Sylvie peut-être.
Oui, bonjour, merci de nous avoir invités. Moi je suis ravie de rencontrer nos amis qui ont écrit ce livre, puisque juste ce livre est arrivé sur ma table quand je préparais avec Nelly, qui est là aussi, un voyage en Palestine. Alors, j'ai pas tout lu parce que c'était, je préférais vivre sur place et vivre mon ressenti. Et ce que vous disiez est exactement ce qu'ils nous ont dit aussi, hein, c'est témoigner, on ne demande que ça, que la parole circule, une parole vraie, une parole sincère et pas compatissante, mais plutôt militante un peu aussi, parce qu'il y a besoin aussi de ce côté-là, de notre part, et puis parler aussi est un acte militant quand on parle de ce qui dérange.
Donc, merci Sylvie, on passe la parole à Nelly.
Oui, donc Sylvie a commencé à dire que nous étions partis ensemble à ce voyage en Cisjordanie plus exactement. Moi c'est la deuxième fois que je participe à ce voyage solidaire et militant avec l'association France-Palestine Solidarité du Tarn et Garonne. Je suis moi-même militante au comité Palestine 81 depuis sa création, depuis qu'il existe.
Voilà. Alors il existe depuis quand ?
Alors il doit exister depuis 2003. Auparavant il existait un collectif qui regroupait des associations, organisations, syndicats, partis. Devant les difficultés de faire fonctionner ce collectif, il a été décidé de créer une association départementale, une association loi 1901 qui fait ce qu'elle peut, mais qui, je crois, essaie de faire entendre justement la voix que l'on étouffe des Palestiniens, que sur les médias ordinaires, on étouffe très couramment. Voilà, donc j'ai pu voir, comme je suis allée en voyage déjà en 2010 et que j'y suis retournée, j'ai pu voir la différence, mais pas en positif, la dégradation et l'aggravation de la situation. On en reparlera sans doute.
Bien sûr. Alors j'invite la dernière personne à se présenter, une voix masculine.
Oui, Georges, je suis un petit peu connu ici à Radio Albigès pour avoir été longtemps le trésorier bénévole. Très efficace, j'espère. Bon, c'est le même voyage que les deux premiers qui sont intervenus, qui ont fait ce livre, avec le CCFD, Terre Solidaire. D'ailleurs, c'est par leur intermédiaire qu'on a eu connaissance de l'organisatrice qui est à Lyon. Et le même trajet. Et à la place de faire un livre, moi, j'ai commis un résumé de tout ce que... En écoutant les dernières paroles de Warszawski, le dernier jour, vous avez vu, vous avez entendu maintenant parler. Donc, c'était un petit recueil qu'on intégrera, nous... dans un album mais qui est familial, quoi, qu'on fait voir à des amis, n'empêche que à des amis, puis j'écoute, enfin j'obtempère aux injonctions de Michel Warszawski, on fait connaître, sans avoir fait un livre, on fait connaître notre itinéraire et les drames que nous avons vus là-bas par ce biais. Voilà.
Alors est-ce qu'on pourra avoir lecture peut-être d'un passage de...
Ah ben j'aimerais bien la fin, le retour à Tel Aviv, le problème qui est arrivé à un de nos co-voyageurs là, qui rentrait sur Avignon et qui montre bien l'attitude des Israéliens. Parce que sur la Palestine, il y en a 16 pages, mais là, cette anecdote finale, c'est épouvantable.
Donc on la retient, on la
narrerait.
Merci beaucoup. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par la lecture de l'introduction du livre donc, qui s'intitule « Palestine, l'effacement, to exist is to resist ».
Nous avons décidé d'élaborer ce document pour remercier nos amis palestiniens et tenter de transmettre, comme ils nous l'ont souvent demandé, le témoignage de leur quotidien rempli d'humiliation, de deuil, de souffrance, de lutte et aussi d'initiatives multiples, créatives, vivantes. Le texte de ce document a été rédigé à partir de notes personnelles et d'enregistrements des témoignages dont ils nous ont fait part. Certains enregistrements ont été retranscrits mot pour mot, ce qui explique leur style. Les photographies ont été prises lors des diverses rencontres, visites, avec l'accord des personnes concernées. Nous citerons parfois seulement le prénom de nos guides, de nos chauffeurs, afin de préserver leur sécurité. N'étant que de modestes voyageurs, les propos retranscrits ici n'engagent que nous. Par avance, nous nous excusons pour les erreurs ou les approximations que vous pourrez y trouver. Étant déjà investis dans l'altermondialisme et le social, nous pensions être avertis de la situation. Mais la réalité observée et partagée avec ceux-là même qui la vivent fait bien évidemment prendre conscience de l'horreur qui se cache derrière de simples analyses militantes ou pas. De notre point de vue, il s'agit également de la destruction de tous les peuples qui refusent de s'aligner et de subir l'ordre mondial.
Voilà, ça commence fort, mais tel que ça doit être. Alors, on peut peut-être parler de la couverture et de la quatrième aussi de ce livre. Alors, comme il n'y a pas l'image à la radio, mais on pourra peut-être me mettre une photo sur le site. Hein, en première page, ce sont des murs. Derrière ces murs, on voit des immeubles, finalement, qui pourraient aussi être des visages humains, puisque au premier plan, on a plutôt des visages humains qui se détachent de ces immeubles. On a un hélicoptère qui fait une ronde par-dessus. Bon, c'est pas une ambiance très sympathique, déjà. Alors, par contre, en quatrième de couverture, il y a une succession de cartes très parlantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ?
Oui, alors c'est une succession qui va de 1900 à 2012 et qui montre petit à petit le morcellement de la surface palestinienne. Hein. On s'aperçoit que la stratégie a été surtout d'isoler, c'est-à-dire qu'à la fin, déjà, c'est réduit peut-être au dixième de ce que c'était. Et en plus, il n'y a plus de continuité territoriale. Ça, c'est très important. C'est une stratégie qui a été mise au point il y a longtemps, qui consiste à faire que tous les déplacements deviennent impossibles, la communication devient impossible, enfin tellement coûteuse en temps, en énergie, en tas de choses. Voilà, je dirais que quand on montre ça à des gens sceptiques, les images parlent d'eux-mêmes, il n'y a même plus besoin de commentaires.
Oui. Il y a, je me souviens d'une à Hébron, au comité France-Palestine, il y avait une immense carte de, qui venait de, du monde diplomatique, et on, avec les couleurs, on disait c'est un archipel. La Cisjordanie est un archipel avec des petits morceaux qui ne peuvent pas se joindre entre eux.
Oui, peut-être qu'il faut expliquer que lorsqu'une nouvelle colonie est créée, puis une deuxième, une route est construite qui relie les deux colonies, très belle route, mais que ces routes-là sont interdites aux Palestiniens. Donc, ce qui explique que pour aller, par exemple, pour visiter une famille qui est sur un autre petit îlot, ils doivent faire d'immenses détours en passant de multiples checkpoints. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'ambiance de ces checkpoints ?
Alors, je crois que l'ambiance de ces checkpoints, ça nous a glacé le sang. Pour ma part, j'avais les larmes aux yeux quand je suis arrivée dans cette espèce de no man's land avec des grillages, des barbelés, des couloirs. Et le premier que nous avons vu, il était vide. Mais il y avait les traces de la souffrance humaine avec tous ces couloirs, tous ces barbelés et puis tous ces détritus qui traînaient de ci, de là, des bâches à moitié déchirées qui étaient censées probablement protéger ou de la pluie ou du soleil, je ne sais pas. Et le deuxième checkpoint, nous l'avons emprunté nous-mêmes à Bethléem et c'est aussi glaçant parce que quand on est dans les couloirs, eh bien, on ne peut qu'avancer. On ne peut pas faire marche arrière et on est piégé là-dedans. Ça dure, ça n'en finit pas. Il y a des murs, des couloirs, des murs, des couloirs. Et puis, il y a tout ce dont on est témoin. Tout d'un coup, ça s'arrête, la file s'arrête. On ne sait pas pourquoi ça s'arrête. Et puis, ça repart. Et moi, ce qui m'a énormément émue, c'est que quand nous sommes arrivés au lieu de contrôle où il y avait l'armée israélienne, eh bien, les Palestiniens étaient ennuyés, il fallait qu'ils montrent leurs papiers, ça discutait, etc. Et nous, en tant que touristes, nous sommes passés comme ça. Et pour moi, ça, c'est une injustice énorme. Mmh.
Et encore, là, vous parlez d'exigences au niveau des papiers, mais dans le livre, il y a un témoignage notamment d'une femme qui va bien au-delà de tracasseries de paperasse.
Tout à fait. Et les Palestiniens, ils y restent des heures. Ils arrivent à 3 heures du matin pour passer à 7 heures. Et une femme enceinte n'a pas la priorité, il y a des morts, parce qu'on ne laisse pas passer les femmes enceintes et qu'elles accouchent dans leur voiture où elles peuvent et les bébés meurent. Et ça, ce sont des témoignages dont on nous a parlé X fois. Il y a des blessés qui arrivent, qui ne sont pas prioritaires et qui meurent aussi faute de soins. Et tout est fait pour entraver la vie et pour faire mourir les gens finalement.
Oui, il y a une phrase dans le livre, c'est « on leur vole leur temps ».
C'est ça. C'est ça, parce qu'ils y passent des heures et des heures, matin et soir.
J'y suis allée donc deux fois. La première fois, ça m'avait beaucoup bouleversée. J'avais ressenti les mêmes choses. Mais cette fois-ci, nous sommes allés à Tulkarem, qui est un checkpoint pas loin de Naplouse. Tulkarem, ça se trouve à la frontière donc israélienne. J'ai tenté qu'on puisse parler de frontière d'ailleurs, hein, où les travailleurs par milliers sont obligés de passer pour aller travailler en Israël. Parce que ça aussi, ça fait partie des humiliations. Hein. Pour vivre, on est obligé d'être dépendant de l'occupant. Quoi. Donc, par milliers, ils arrivent à 3h. Nous ne sommes pas allés à 3h du matin, nous y sommes allés 4h30, vers 5h. Hein. Donc, on a vu dans les cages, c'est vrai, on est révoltés et bouleversés. Hein. On a eu du mal à s'en remettre tout au long de la journée. Et tout au long du séjour. Moi, je n'avais pas vu ça la première fois. Donc, ils sont là à partir de 3 heures du matin pour être sûrs qu'ils arriveront au bout donc de tout ce périple encagé à 7 heures, heure à laquelle il n'y a plus de bus pour les acheminer vers leur lieu de travail. Et encore faut-il qu'ils y parviennent. Parce que tout au long de ce parcours, il y a des tracasseries multiples, des contrôles, et quelquefois avec des contrôles pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'armes ou je ne sais quoi, on les fait se dénuder, tout ça, et certains, on les a vus, certains, pour une raison ou pour une autre, rebroussent. Alors il y a une petite déviation qui fait en sorte que ceux qui ne peuvent pas passer retournent comme ils étaient venus. Quoi. Donc, et pourtant, la plupart d'entre eux ont des contrats de travail en bonne et due forme de leur employeur israélien. Et nous y sommes allés, nous, accompagnés d'un syndicaliste courageux et militant qui, tous les matins, justement, va constater ce qu'il y a à constater et essayer de faire en sorte que les exactions soient les moins graves possibles. Mais enfin, bon, il a affaire à un obstacle énorme.
Et puisqu'on parle des checkpoints, nous avons passé un checkpoint avec des enfants qui allaient à l'école. Et effectivement, nous avons fait circuler plus rapidement. Et ces enfants, tous les jours, deux fois par jour, doivent passer les checkpoints avec l'incertitude, parce que aussi bien les enfants peuvent être stoppés pour des raisons qu'on ne leur expliquera évidemment pas. Et c'était vraiment, là aussi, difficile à vivre hein, de voir ces gamins, ces gamines qui attendaient patiemment.
Alors effectivement, on a parlé des gens qui sont bloqués dans leur déplacement pour aller travailler, mais il y a aussi donc les enfants pour aller à l'école ou les étudiants. Dans le livre, il en est question aussi. Et de voir quotidiennement subir ces tracasseries, c'est un mot un peu gentil, hein, fait que certains restent dans la ville pour ne pas devoir à chaque fois faire les navettes, mais ce n'est pas évident du tout.
Ben c'est ça, puisqu'en Naplouse, par exemple, les étudiants ont décidé d'habiter en ville plutôt que de subir les checkpoints. Et ça veut dire qu'ils sont plusieurs par chambre parce qu'ils n'ont pas de gros moyens. Ça nous permet de rebondir aussi sur l'aspect éducatif et surtout l'investissement que les Palestiniens mettent pour que leurs enfants fassent des études supérieures, parce qu'ils pensent que la liberté viendra aussi grâce à l'instruction, grâce à l'éducation. Et nous avons rencontré des jeunes Palestiniens en classe de français totalement déterminés dans leurs études et totalement concentré sur, c'était l'acquisition du français, mais bon, bien d'autres disciplines. Et tous les gens que nous avons rencontrés par ailleurs, nos guides, nos chauffeurs, sont des gens, tous, qui sont diplômés de l'université. Et les familles, vraiment, se saignent aux quatre veines, comme l'on dit, pour pouvoir payer leurs études à leurs enfants. Mmh. Il y a 13 universités en Palestine, ce qui est énorme, vu que c'est un tout petit pays.
Et qu'est-ce que vous avez pu constater au niveau, parce que vous avez rencontré des étudiants, au niveau de la mixité dans les universités ?
Alors, je dirais que nous n'avons fait que passer à l'université de Naplouse, où la classe était mixte. Les jeunes femmes portaient des foulards. Elles n'avaient pas le visage voilé, mais elles portaient tout un foulard. Elles étaient toutes, je dirais, radieuses, celles que nous avons vues, joyeuses de nous accueillir, très souriantes. Les jeunes garçons aussi. Et moi, de ma place de visiteur, moi, je n'ai pas perçu quoi que ce soit. Mais voilà, ça reste une visite de 2 heures dans une université. Je ne peux pas en dire plus.
Nous, ce qui nous a étonnés, c'est qu'on a visité une université à Bethléem. Et ce qui était, alors, il y avait des jeunes femmes voilées, il y en avait d'autres non. Il y avait énormément de filles, très peu de garçons. Alors on a demandé au proviseur, enfin l'équivalent du proviseur chez nous, il nous a dit, les garçons, eux, sont à la maison parce qu'il faut qu'ils cherchent du travail pour nourrir la famille, ou alors ils ont été massacrés lors d'une révolte, quoi. Voilà.
Oui. Oui, parce qu'avec Sylvie, nous sommes allés à l'université d'Hébron, hein, où il y a aussi beaucoup de filles, effectivement. Mais je voulais dire une toute petite chose, c'est que c'est en Palestine, que c'est on ne va pas dire le pays, mais parmi les pays arabes, c'est là où le niveau d'études supérieures de la jeunesse est le plus élevé. C'est quand même assez significatif. C'était tout ce que je voulais dire.
Donc des espoirs mis dans les études. Mais est-ce que pour autant, ça sera aisé pour eux de trouver du travail sur place ?
Pas du tout.
Non, ce qu'ils envisagent, c'est de partir. Ils savent que ça va être c'est inéluctable. Enfin, ce n'est pas qu'ils le choisissent, hein, mais ils voient bien se dessiner cette perspective.
D'autres réactions par rapport à ça, non ?
Il y a quand même une grande partie de la population palestinienne qui est déjà immigrée à travers le monde, hein, près de la moitié. Il y a beaucoup, même dans ces jeunes très militants, quand ils pensent partir, ça sera de toute manière pour continuer à défendre la Palestine. Mais effectivement, en interne, il y a de moins en moins de travail qualifié. Et quand on voit ce qui se passe sur Gaza, c'est encore pire. Hein, où c'est une prison à ciel ouvert. Enfin, personne ne peut y aller actuellement, mais je crois que c'est 10 fois pire. Je voulais rebondir sur le problème du logement qui est dû au fait des checkpoints et pas que seulement des checkpoints. C'est-à-dire que le gouvernement israélien va jusqu'à barrer des routes de manière à ce qu'au lieu de faire 2 km pour aller à un endroit, on en fait 40 ou 50 avec plusieurs checkpoints. Tout est fait pour que les gens aient envie de partir. Hein. Comme c'est quand même pas politiquement correct de les massacrer, quoique à Gaza, on peut se poser des questions, tout est fait pour qu'ils partent. Voilà, pour ce qu'on a vu également. Tu parlais des routes tout à l'heure, Sylvie. Je crois qu'on a vécu des positions, des situations qui nous paraissent être de l'apartheid, c'est-à-dire proche de ce qu'il y avait en Amérique du Sud. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le gouvernement d'Amérique du Sud et le gouvernement israélien sont depuis longtemps amis, puisque c'est ensemble qu'ils ont mis au point leur bombe atomique, parce que ce n'est pas dit, mais Israël a aussi l'arme atomique. Et ce qu'on a vu, c'est des routes qui se croisent l'une sous l'autre avec des murs qui empêchent toute communication. On a vu des champs séparés en deux, ce qui fait que les bêtes ne peuvent plus aller paître de l'autre côté du mur. On a vu des ordures se vider directement dans le côté palestinien. Ça, c'est des choses qui ne font pas recette, mais qui, quand on le voit, c'est là. C'est, hein. On a vu à la dernière ville,
à Hébron,
on a vu des filets pour protéger le marché du souk, parce que les colonies qui sont au-dessus jettent leur gravats et leur détritus sur les Palestiniens.
Juste une anecdote, moi je fonctionne beaucoup par souvenir image, vraiment une scène qui me reste fortement dans la vieille ville d'Hébron. Donc il y a deux rues séparées par des bâtiments qui sont maintenant occupés par les colons. Une des rues, le souk est toujours là, avec les filets de protection, puisque les colons, voilà. Et l'autre rue, donc l'autre versant, est complètement fermé aux Palestiniens. Les souks sont fermés et ce sont les Israéliens et les colons qui les occupent. Une maison demeure occupée par une femme. Alors nous y sommes allés, notre guide n'a pas pu passer, évidemment, puisque c'est inscrit. Et donc on est arrivé devant cette maison, il y avait un point avec trois militaires très jeunes, vraiment, ce sont de jeunes hommes, de jeunes femmes, puisqu'il y a beaucoup de les femmes font aussi leur service. Une femme est sortie de sa maison, elle a regardé le ciel, elle n'a pas tourné ses yeux vers les militaires, vers les soldats. Elle est rentrée, elle a pris un tapis, calmement, elle l'a déposé sur la rambarde. Elle a regardé le ciel, elle est rentrée, reposé un tapis. Et dès qu'elle a fait des mouvements, les militaires ont tourné leur fusil vers elle. Une femme d'un certain âge qui résiste et qui souhaite rester là. Quoi qu'il lui en coûte, devant le regard hostile. Et aussi, me semble-t-il, aussi craintif des soldats qui, quelque part, eux aussi... ont intégré cette peur.
Oui, et puis comme vous le soulignez dans votre livre, pour les Israéliens, faire le service est vraiment quelque chose d'obligatoire. Et si on ne le fait pas, on est un peu écarté de la société.
C'est ça. Déjà, on a du mal à avoir un contrat de travail, parce que pour avoir un contrat de travail, il faut certifier que l'on a fait ces 3 ans de service. Mm-hmm. Et puis ces 3 ans de service, ils les font très jeunes, à 18 ans, d'où la peur. Et nous, c'est à Hébron, une de nos camarades a interviewé un jeune soldat qui parlait français. Il a dit, de toute façon, ou on s'embête, ou on a peur. Et c'est vrai qu'ils sont terrorisés, mais ils sont aussi...
Conditionnés,
parce qu'on leur dit que tous les Palestiniens sont des terroristes, ce qui est faux. Mais n'empêche qu'ils ont peur et que du coup ils tirent facilement. Et c'est aussi comme ça que dans les checkpoints il y a de graves accidents et qu'il y a des morts régulièrement parce que tout d'un coup, ils ont peur, ils tirent.
La tension monte.
Et voilà.
Mais il faut souligner quand même que certains militaires, une fois leur service terminé, témoignent de ce qu'ils ont été amenés à faire. Et ça, je tiens à le saluer, parce que c'est vraiment un sacré courage.
Il y a une association, je ne sais pas le dire en anglais, mais qui s'appelle Rompre le silence.
Breaking the silence.
Voilà, que nous avions rencontré, nous, en 2010. Justement, ce sont d'anciens militaires qui amènent des Israéliens, ce qui est intéressant quand même, voir ce qu'ils font, quoi. En Cisjordanie occupée, moi, on les avait rencontrés à Hébron, justement. Alors là, on a une vision avec la séparation de la ville en deux zones, H1 et H2. Et les colons qui se comportent vraiment de manière ignoble, vraiment il y a de quoi dire et de quoi faire.
Alors Nelly, je profite que tu aies la parole pour te demander d'introduire la musique que nous allons écouter.
Donc, je pense que nous avons choisi le poème dit par Mahmoud Darwish. Je pense que vous connaissez ce grand poète palestinien mondialement connu, qui hélas nous a quittés il y a quelques années. D'ailleurs, au passage, nous sommes allés, mais je pense que vous aussi, nous sommes allés au musée à Ramallah, au musée qui lui est consacré. Donc le poème s'appelle, et il est accompagné par un trio de joueurs de oud, le trio Joubran. Donc le poème s'appelle « Sur cette terre ». Si vous voulez, comme il le dit bien sûr en arabe, je pourrais tout à l'heure vous dire en français le poème. Mais déjà, la musique de la langue arabe dit beaucoup de choses. Voilà.
Merci.
يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة
Toujours sur les ondes de Radio Albigès, Paz vous propose une émission autour de la Palestine avec plusieurs intervenants autour du livre de Dominique et Yves Perrault. Une émission enregistrée mi-janvier 2019.
Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. L'hésitation d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les opinions d'une femme sur les hommes, les écrits d'Eschyle, le commencement de l'amour, l'herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu'inspire le souvenir aux conquérants.
Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. La fin de septembre, une femme qui sort de la quarantaine, mûre de tous ses abricots, l'heure de soleil en prison. Des nuages qui imitent une volée de créatures. Les acclamations d'un peuple pour ceux qui montent, souriant, vers leur mort. Et la peur qu'inspirent les chansons aux tyrans. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l'appelait Palestine. On l'appelle désormais Palestine. Madame, je mérite la vie, car tu es Madame.
Alors, merci beaucoup pour cette traduction. Et ça nous allège un peu d'introduire un peu de poésie dans notre discours qui lui est pas très léger. Et si vous le voulez bien, on va continuer. Vous allez continuer à apporter vos témoignages. Alors on a parlé des difficultés de circulation omniprésentes, de ces routes un peu saugrenues qui se croisent pas, enfin qui se croisent au-dessus, en dessous, mais qui ne communiquent pas. Il y a un autre point très important, puisqu'il est vital, qu'on n'a pas encore évoqué. Si vous vouliez bien en parler un peu, c'est l'eau. Alors, qui prend la parole en...
Alors, l'eau, il y a plusieurs choses dans l'eau. Évidemment, comme c'est un besoin vital, il est totalement contrôlé. Il est même contrôlé au compte-goutte, puisque une chose distinctive pour reconnaître un immeuble palestinien, c'est de voir les réservoirs d'eau sur le toit, parce que dans certains endroits, ils ont le droit à de l'eau qu'une fois par semaine, voire même moins. Donc il faut faire des réserves pour pouvoir tenir. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est le prix de l'eau. C'est-à-dire que l'eau est vendue, on avait un exemple, elle est vendue entre 10 et 50 fois plus chère aux Palestiniens le mètre cube qu'elle n'est vendue aux Israéliens. On a des colonies israéliennes où les gens ont des piscines et à 1 km, c'est la pénurie totale. Après, il y a l'accès à la réserve d'eau. Il faut savoir que c'est un pays où les nappes phréatiques sont importantes. Que les Palestiniens ont l'interdiction de creuser, voire même de réparer leurs puits, et que c'est maintenant le ministère de l'armée qui gère les autorisations des réparations des puits. Il y a des endroits où, quand il y a des nappes phréatiques, donc ils n'ont pas le droit, je pense, à Qalqilia, où ils ont découvert une importante nappe phréatique juste sous le territoire palestinien. Donc on a, les Israéliens ont interdit évidemment de remettre les puits en état et tout. Et à la frontière, enfin à l'extérieur de la zone, ils ont fait des tas de forages pour capter l'eau à la limite de la nappe, de manière à capter toutes ces eaux et l'avoir pour eux et pouvoir donc la redispenser à leur manière aux Palestiniens. Donc on est dans une véritable guerre
d'usure.
Une guerre d'usure sur ce produit vital qu'est l'eau. Une chose de plus.
Là où ça me paraît le plus évident, bien que nous n'y soyons pas allés cette fois-ci, c'est dans la vallée du Jourdain, où je crois que vous êtes allés. Alors là, c'est terrifiant, hein, parce que vous voyez de temps en temps les colonies avec des cultures, des zones vertes, voilà. Et à côté, vous avez les Bédouins qui doivent acheter l'eau. Hein, vous avez dû constater donc les citernes à côté des campements de Bédouins, pour leurs propres besoins et les pâturages qui sont complètement c'est aride, sans rien du tout. Moi, c'est là que ça m'avait particulièrement, que j'avais pris conscience de ce problème de l'eau, sans compter qu'ils sont en train de dévaster le Jourdain, de l'assécher, enfin...
Le Jourdain est un petit ruisseau, voilà. La mer morte a baissé de dizaines et de dizaines de mètres. Et toute l'eau du Jourdain est captée pour irriguer des cultures au profit des Israéliens et pas des Palestiniens. Et il est vrai que les campements de Bédouins n'ont pas accès à l'eau. Ils la payent 25 fois plus cher que les Israéliens.
Vous l'expliquez fort bien dans le livre.
Et ils ont aussi du mal à la transporter, puisque régulièrement, leurs chemins sont détruits par les bulldozers de l'armée israélienne et qu'ils sont obligés de faire des détours à n'en plus finir pour arriver à ramener de l'eau chez eux. Ce qui pose un problème pour eux-mêmes, pour leurs troupeaux, et donc pour leur survie.
Voilà, parce que la vallée du Jourdain est en zone C, donc les Israéliens ont vraiment tout pouvoir, et dès qu'ils veulent s'accaparer de certaines terres, la première étape c'est de dire zone militaire. Donc à partir de là, on sait très bien ce que ça va devenir.
Alors on peut peut-être faire un petit point, en profiter, parce que zone A, zone B, zone C, tout le monde ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Qui veut bien éclairer les auditeurs là-dessus?
Alors, la zone A, sont des zones, ça correspond aux grandes villes palestiniennes. Ramallah, Hébron,
Naplouse,
etc. Et ce sont des zones qui sont sous administration palestinienne. Les zones B sont des zones mixtes qui sont à la fois sous administration palestinienne, mais à la fois sous administration israélienne, ce qui donne des choses extrêmement complexes, parce que quand il y a des délits, eh bien, c'est à qui de faire les enquêtes, c'est à qui de punir. Il reste un point d'interrogation. Et puis, il y a les zones C qui sont totalement sous autorité israélienne. On est dans le West Bank, on est en Cisjordanie, et pourtant, 80% de ce territoire-là est en zone C. Et ça, c'est énorme. Parce que ça veut dire que les Palestiniens ne sont plus chez eux et que tout est contrôlé. C'est là qu'on implante des colonies. Et c'est là que l'armée pratique aussi ses exercices militaires, etc. Et c'est là que les Palestiniens se font parfois tirer comme des lapins, parce qu'ils ont soi-disant dépassé la frontière qui en fait n'est pas du tout matérialisée, mais juste ce jour-là, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment.
Oui, je suis un peu hors sujet, mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la destruction systématique des maisons.
Ah, oui.
Parce qu'il se passe quelque chose de relativement simple, c'est qu'autant aucun permis de construire en étant attribué, qu'il faut bien se loger. Oui, on construit donc sans les permis de construire. Mmh. Ce qui permet régulièrement à l'armée israélienne de venir de nuit, de donner une heure aux gens pour prendre leurs affaires et de détruire complètement la maison. Dans le livre, il y a des photos. On est arrivé quelques jours après la destruction. Et c'est une destruction qui est impressionnante parce qu'on sent qu'on a même vu des jardins dévastés. Il y a une orage de détruire. C'est pas seulement vous n'avez pas le droit, on vous punit, on vous annihile. C'est quelque chose de viscéralement touchant, la manière même dont c'est fait.
Oui, en plus, c'est pas seulement des permis de construire qui ne sont pas délivrés, mais c'est aussi on interdit aux personnes qui occupent un logement de le maintenir.
Ah, ils ne peuvent pas le réparer. Ouais. Et alors, il se passe quelque chose de terrible, comme à Jérusalem, où ils font des tunnels parce qu'ils veulent faire passer une route. Parce qu'il faut. Actuellement, dans cette logique d'apartheid, on fait des routes pour les touristes où on ne voit plus voir les côtés les palestiniens. Donc, ils sont en train de forer, ça ébranle les maisons. Donc il y a des maisons qui s'écroulent et ils ne peuvent pas les restaurer. Ça, c'est...
Et dans ce même ordre d'idées, tout à l'heure Nelly disait que ça s'était aggravé depuis 2010. Et moi je lisais hier soir sur le site Palestine Monitor qu'en 2018, les incidents causés par la violence des colons de l'armée a été doublé par rapport aux années précédentes. Donc, les démolitions, les agressions, les incivilités, etc., se poursuivent et se développent et s'intensifient. Et du coup, nous restons quand même extrêmement préoccupés parce que ça va pas bien, quoi. Ça va pas bien et les choses s'aggravent.
Depuis l'arrivée de Trump, notamment, qui est un soutien inconditionnel. Déjà, les États-Unis l'étaient, mais alors là, on a... Et ils ont maintenant le quartier complètement libre, quoi. Ils se sentent Il y a eu une grosse émission à France Inter il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que les exactions des colons se multiplient.
Leur dernière obligation, enfin, non, c'est plutôt c'est le contraire, ils interdisent aux ONG maintenant de livrer les médicaments pour les enfants, les vaccins, pour les petits. Ouais. Ça, c'est une des dernières, voilà.
Et l'aide alimentaire a été réduite de 40%. Donc, ce qui laisse un certain nombre de Palestiniens dans le besoin total et d'autres avec des aides extrêmement réduites. Il ne faut pas oublier que dans les camps de réfugiés, qui existent toujours depuis 1948, c'était les aides internationales qui permettaient à ces gens de survivre, des aides alimentaires, des aides éducatives, et ces aides ont été réduites de 40%.
L'Europe a l'air de faire un geste depuis la décision de Trump. L'Europe aurait décidé d'un petit peu augmenter sa participation, mais elle n'atteindra jamais le niveau de ce que versait les États-Unis à l'aide aux réfugiés.
C'est ça.
À propos de réfugiés, j'ai envie de citer un petit passage du livre. Être réfugié, c'est être étranger dans son propre pays. Chercher la vie, l'existence, c'est subir l'infériorité, le malheur. C'est la misère. Une occupation étrangère nous oblige à vivre sous la terre. Donc ça, c'est des mots que vous avez recueillis. À propos de témoignages, Georges est venu avec une anecdote à partager.
Une anecdote. J'ai plusieurs. Il y a une chose qui me tracasse plus que cette anecdote. Lorsque la rencontre avec le France-Palestine à Hébron, on a été emmené dans des familles. Je pense que vous avez eu la même chose quand vous y êtes allé. Et là, on est allé dans une famille, dans un tout petit village. On a mis très très longtemps en bus, en taxi, à peu près 1h30 d'Hébron, un jeune homme qui parlait un français approximatif, disons. Il était surtout très bon en anglais. Et on était dans un petit village. On était les premiers non-palestiniens à arriver dans ce petit village. Donc je vous passe les détails de la réception, tout ça. Et on a commencé à correspondre. Donc il m'avait envoyé un petit mot par mail pour demander des nouvelles. Et j'ai répondu en disant je fais ce que j'avais promis, c'est-à-dire que je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai découvert. Et d'ailleurs, je viens de faire une émission à une radio. Et alors, autant son premier texte en mauvais français, c'était sûr que c'était lui. Et j'ai envoyé ce mail, et aussitôt, presque une heure après, j'avais un mot très très bien écrit en français, me demandant sur quelle radio, et pour savoir. Donc visiblement, le message a été intercepté, parce que ce n'était pas son écriture, le deuxième. Et là, j'ai envoyé, bon, évidemment que le nouvel an, j'ai envoyé un mail il n'y a pas très longtemps, et curieusement, il n'y a plus de nouvelles, quoi. Je pense que les autorités israéliennes ont senti... c'était un jeune homme, il avait 20 ans, il avait déjà passé près de 3 ans en prison. Son frère, il en avait passé 5. Enfin voilà, toute la famille, de toute façon, peu ou prou, était à un moment passé par la casse-prison, quoi. Voilà, c'est ce qui me tracasse le plus en ce moment. Je me demande... Et ce jeune avait de l'espoir, comme tout à l'heure Yves le disait. Ils n'ont pas de ressenti vis-à-vis de la religion, mais ils avaient l'espoir. Son espoir, c'était de dire, bon, il est passé des tas de gens sur cette terre, il est passé les Mongols, des tas de gens sont passés là, y compris les Anglais, tout, ils ont fini par partir. Donc ils se disent, bon, les Israéliens ont fini par partir. C'est leur seul espoir.
Oui, en tout cas, ils gardent cet espoir-là.
Ils gardent quelques-uns.
Ils gardent cet espoir-là.
Oui, pour rester sur le sujet, nous, ce qu'on a surtout entendu comme témoignage des Palestiniens, il faut savoir que quand même, pendant très longtemps, les Palestiniens et le peuple juif s'est très bien entendu, a vécu ensemble, en parfaite harmonie, et que, avant la Seconde Guerre mondiale, le début du XXe siècle, les choses se passaient bien. Et que, moi, ce que j'ai perçu, bon, c'est peut-être fragmentaire, c'est que, d'une part, actuellement, les autorités palestiniennes étaient mal perçues. Elles étaient perçues comme étant collabos, tout simplement. Et que tout ce qu'ils demandent, c'est même plus un système à deux États. De manière, on est allé tellement loin, quand on voit la carte, que le système à deux États, il devient quasiment... Ils veulent simplement avoir les mêmes droits dans un même pays et être des citoyens comme les autres. Que tout le monde vivant sur cette terre soit citoyen avec des droits égaux. C'est C'est ça. Et on a quand même, moi je suis assez chapeau, parce que on n'a jamais eu de discours haineux vis-à-vis des Israéliens. Simplement un désir d'avoir les mêmes droits et de vivre ensemble. Ça, c'est quand même quelque chose de très important à signaler. Et que tout discours, s'il faut bien faire la différence, et ça me semble très important, entre un gouvernement d'extrême droite tel qu'il est actuellement en Israël, n'a rien à voir avec le peuple israélien.
Merci à vous de le souligner. Alors on arrive dans la dernière partie de l'émission. Je vais vous proposer autour de la table de partager avec les auditeurs sur des événements à venir que vous portez sur cette thématique autour de faire connaître la situation des Palestiniens.
La plus proche dans le calendrier, ce sera sur Albi, par exemple, en collaboration avec la salle, le RC, le comité et le comité Palestine. La projection de deux films dans le cadre du festival du film palestinien qui a commencé à Toulouse et qui a pris maintenant une envergure un petit peu régionale. Donc ce sera l'occasion, avec le support des films, là aussi d'engager le débat. Il y aura un documentaire et une fiction. Et voilà. Dans un deuxième temps, mais beaucoup plus tardivement, vraisemblablement au mois de mai, justement les Tarnais et les amis des autres départements qui ont participé au voyage au mois d'octobre organiseront une soirée justement pour rendre compte de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu.
Oui, justement, pour préparer ces soirées, là, nous travaillons pas mal pour être aussi efficaces et pertinents, mais aussi, bon, ce sera aussi des moments festifs, hein, mais voilà. Et nous préparons entre autres une exposition, quelque chose de magnifique. On a parlé des murs qui enserrent les colonies, qui enferment, moi je dis les deux côtés finalement, mais beaucoup de ces murs sont peints par des fresques qui sont magnifiques. Et nous sommes en train là de préparer une expo de photographies sur ces murs peints qui sont de vraies merveilles, mais aussi de véritables articles de protestation et de résistance. Ils disent aussi résister par l'art, et je crois que là vraiment c'est quelque chose de d'étonnant et de magnifique, et puis de colorer, de peindre sur les murs, c'est les détruire un peu.
À ce propos, résister par l'art, nous avons rencontré justement dans le camp d'Aïda le directeur du centre culturel d'Aïda, qui est une personne magnifique, qui a fait des études en France pendant 8 ans, bon, et qui a un niveau d'études supérieures très élevé, qui est assez désabusé sur le plan politique. Il nous a dit, il a comparé l'autorité palestinienne au gouvernement de Vichy, et qui dit que pour lui, sa manière de résister, de lutter, c'est par la culture, c'est par l'art, c'est par l'éducation. Il travaille donc dans le camp de réfugiés avec les enfants, les jeunes, les adultes du camp. C'est une personnalité qui nous a beaucoup impressionnés, je crois, par sa culture, par son humanité aussi, je crois. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'humanité en Palestine. Les Palestiniens sont très accueillants. Et franchement, ils ont une force de vie. Et donc, ils pensent aussi que les sociétés civiles dans les pays européens, et en France notamment, ont beaucoup à dire et à faire. C'est pour ça aussi que beaucoup soutiennent la campagne de BDS, la campagne boycott des investissements sanctions, qui est partie de la société civile palestinienne, faut-il le rappeler, qui est totalement, bien sûr, pacifique et non violente. Quoi que en disent certains, voilà.
On a bien compris, hein, vous êtes tous porteurs de messages, et vous agissez chacun à votre niveau pour relayer la parole des Palestiniens. Alors, on va revenir quand même sur le livre qui a permis de vous réunir aujourd'hui. Donc le livre, c'est « Palestine, l'effacement », un livre de Dominique et Yves Perrault, donc, qui sont venus en parler avec d'autres aujourd'hui. Donc vous avez choisi d'éditer à compte d'auteur votre témoignage. Ce livre, est-ce qu'on peut le trouver en librairie ?
Non.
Alors, pour l'instant, on ne peut pas le trouver en librairie. Dites-nous un peu si des personnes voulaient se le procurer. Est-ce que c'est quand même possible ?
Alors, c'est possible. Il nous en reste très peu. Mais on va peut-être faire une réédition. Je pense que le plus simple, c'est de donner notre adresse mail Et par le biais d'un contact mail, on voit comment on peut s'organiser. Donc cette adresse, c'est domi-perrot@orange.fr. Donc Perrot, P-E-2-R-O-T.
Donc on va peut-être redire l'adresse en entier, en épelant tout, pour que ce soit bien clair.
Oui. Domi, D-O-M-I-Perrot, P-E-2-R-O-T, @orange.fr.
Voilà. Et donc éventuellement, il en reste un peu et peut-être une édition ultérieure.
Peut-être.
D'accord. Sachant que bon, c'est un livre vraiment très, très, très riche de photos. Ah oui, il y a un passage dont on n'a pas du tout parlé. Bon, c'était un peu anecdotique. Moi, je l'ai trouvé très beau, la savonnerie.
Ah oui, la savonnerie.
Où on voit des hommes qui fabriquent encore, avec sans doute des gestes ancestraux, des savons et qu'ils alignent. Je trouve que c'est très, très beau.
Une pyramide de savons.
Oui. Alors, vous dites qu'ils ont l'air fatigués. Est-ce que vous leur avez parlé à ces hommes-là ?
Alors, ces hommes-là ne parlaient pas l'anglais, ne parlaient pas le français, donc c'était difficile. Donc, ce que je peux évoquer, c'est le ressenti d'une profonde fatigue, d'une profonde tristesse et d'un travail probablement pénible, surtout quand il faut monter le savon liquide à l'étage, dans un escalier totalement glissant. Et là, on s'est demandé comment ça pouvait se passer. Après, nous avons observé des hommes qui étaient en train d'emballer et de ranger des savons, et ils ne souhaitaient pas être pris en photo. C'est pour ça que dans le bouquin, vous avez des photos où les gens sont pris de dos.
De dos, oui.
Par respect. Mais c'était, les lieux étaient très, très, très vieux, et ils se dégageaient, mais c'est encore pas. C'est un ressenti personnel, une profonde tristesse.
Et ils se dégageaient quand même un artisanat, mais basé sur un modèle économique, qui de toute manière ne permet pas de survivre et de lutter contre le modèle économique qu'il y a en face. Et là, on voit bien aussi encore une conséquence de l'oppression.
Alors, bon, difficile de conclure. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous lire la dernière page de votre livre. Je rappelle son titre, Palestine, l'effacement, to exist is to resist.
Et qui s'appelle justement Impossible conclusion. Après ce voyage, nous ne serons plus les mêmes. Les Palestiniens nous ont raconté leur lutte quotidienne contre les agressions de l'occupant israélien. Au travers des partis politiques, des mouvements sociaux, des associations, des communautés religieuses, dans leur travail au jour le jour. Impossible d'oublier le témoignage d'Ijazi à propos de son incarcération. Les mots prononcés par Souad, islam, humiliation quotidienne, souffrance, peur, deuil, sont gravés dans nos mémoires. Tous les événements révélés au préalable, au cours de nos lectures, nous sont narrés par les uns et les autres. Violette, Sophie, âgée de 80 ans, sont les porte-paroles de tous ces exodes, de tous ces massacres orchestrés, programmés. Jamais une larme, jamais une plainte, de la dignité toujours. Des analyses sociologiques et politiques lucides, argumentées, cohérentes, qui s'appuient sur une culture historique, religieuse, politique, nationale et internationale dont nous sommes admiratifs. L'émotion nous étreint souvent, l'envie de devenir solidaire, le besoin de répondre à leurs souhaits, ça m'émeut. Soyez nos ambassadeurs. Nous habitera progressivement, mais il faudra relire les ouvrages clés, réécouter les témoignages que nous avons pris la précaution d'enregistrer pour devenir les porte-paroles à la hauteur de la mission dont nous ont confié les Palestiniens. Mai 2018, l'occupation s'intensifie, soutenue par la position américaine d'établir son ambassade à Jérusalem. L'armée israélienne tire sur les Palestiniens lors de la manifestation pacifique Grande Marche du retour à Gaza, plus de 40 morts, et 349 blessés à la date du 27 avril. Selon Palestine Monitor, les attaques de colons à l'encontre des Palestiniens ont doublé en 2018. Toute critique du gouvernement israélien est immédiatement traduite en termes d'antisémitisme et bâillonne ainsi toute critique internationale. Ce gouvernement d'extrême droite dirige le pays sur la voie de l'apartheid et du génocide et plus loin vers la guerre avec l'Iran pour la domination du Moyen-Orient, soutenu par les États-Unis et le lâche silence de l'Europe. Certes, l'histoire jugera, mais à quel prix ?
Merci. Alors, merci à vous pour vos témoignages. Et merci à Will pour la technique. Et Alcob Kébé, au revoir.
Merci à Paz pour cette émission enregistrée mi-janvier 2019. Merci à Georges Kirtava, merci à Nelly Poissac, merci à Sylvie Puisségur, ainsi qu'à Yves et Dominique Perron.
أتذكر أسمع أبصر أهدي أهلوس أهلوس أصرخ لا تضع